Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée. Pensée classique ou pari fou, philosophie première ou transdisciplinaire, notre seul but est de vous faire voyager encore et toujours sur les chemins de la connaissance. Nouveauté en cette rentrée, les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie, que vous retrouvez à 10h50 du lundi au jeudi, se transforment cette année, tous les vendredis, en petit précis philosophique à l'usage des candidats en campagne. Vous la retrouverez donc aujourd'hui en fin d'émission pour donner quelques conseils philosophiques à Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée spéciale qu'organise France Culture autour de la parution de l'histoire de la vie intellectuelle en France, sous la direction de Christophe Charles et Laurent Jean-Pierre, nous donnons la parole, comme chaque semaine d'ailleurs, à un intellectuel philosophe, une intellectuelle philosophe aujourd'hui, qui pense le monde contemporain à travers le prisme des bons sentiments. Traité des bons sentiments, c'est le titre de son dernier livre paru chez Albin Michel. Bonjour Mariam Korichi.
Bonjour Adèle.
Le moralisme coule à plein bord. On le trouve partout. Il n'est qu'humanitaire, exclusion de l'exclusion, exhortation à la tolérance, ouverture à l'autre, condamnation de toutes les formes de crimes contre l'humanité, repentance, culpabilité généralisée, droit de l'homme, de la femme, de l'enfant, de l'animal et même de la nature. L'empire du bien étend partout ses tentacules. Et la vertu, ou plutôt le vertuisme, pour employer un mot qui n'est pas ou pas encore dans le dictionnaire, a envahi tous les domaines de la vie collective, en particulier ceux dont la logique de fonctionnement lui était en principe étrangère. Pour prendre les quatre principaux, les médias, qui ont remplacé l'information par les bons sentiments, le droit, où le pieux souci de la défense des individus va souvent jusqu'à faire des coupables les victimes du système social, les relations internationales, où les monstres froids que sont les nations doivent apprendre à vivre avec le droit d'ingérence, l'histoire, enfin, que l'extension du devoir de mémoire est en train de transformer en procès général au passé.
Il m'arrive souvent des histoires, ce n'est pas que j'aime la bagarre. Moi dans la vie j'ai mon idéal, je suis un sentimental. Quand je vois deux hommes qui se battent, ça choque mon âme délicate. Comme je ne sais pas lequel a tort, je tape sur les deux pour les mettre d'accord. Et qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai trop bon cœur, ça me perdra. Tant pis, c'est mon idéal, car je suis un sentimental. Quand un copain prend une cuite, je désapprouve sa conduite. Et je lui dis, tu ne devrais pas te mettre dans cet état. Mais comme il n'y a rien à faire, chaque fois qu'il commande un verre, pour l'empêcher de se faire du mal, je me sacrifie et c'est moi qui l'avale. Et qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai trop bon cœur, ça me perdra. Tant pis, c'est mon idéal, car je suis un sentimental.
C'est lors d'un discours sur la vertu prononcé à l'Académie française le 30 novembre 2006 que Pierre Nora prend l'exemple des bons sentiments pour illustrer ce qu'il nomme le moralisme, Myriam Korichi. Est-ce que, on peut commencer par là, est-ce que les bons sentiments sont une forme du moralisme, c'est-à-dire une sorte de position critique à l'égard de la morale ?
Alors, oui, ils servent à ça, c'est-à-dire que moi, je me suis intéressée à l'usage de l'expression « bon sentiment » et dont on a un exemple absolument typique dans le discours de Pierre Nora, qui a été l'une des occasions de m'interroger plus avant sur ce qui s'est présenté à moi comme un problème, c'est-à-dire que si il existe des bons sentiments, si on utilise l'expression « bon sentiment », c'est-à-dire on affirme leur bonté. Et le problème qui se pose immédiatement est d'ordre logique, en quoi une chose dite bonne peut être considérée mauvaise. Et ce qui est frappant d'emblée, et notamment à travers le discours de Pierre Nora, c'est que ça a l'air évident. Donc on utilise vraiment l'expression comme une expression qui résume les positions antimorales, qui dénonce l'hypocrisie, donc des positions morales. L'utilisation péjorative de l'expression dénonce un certain type de moralisme. Mais quand on regarde le texte de Pierre Nora, et qu'on le met d'ailleurs, comme vous nous proposez dans cet enchaînement, à côté de cette simple idée de sentimentalité.
C'était le chanteur Eddie Constantine, la chanson Le Sentimental.
Donc, Eddie Constantine qui revendique sa sentimentalité, on voit tout de suite la différence qu'il y a entre la complexité que cache l'évidence de l'expression bon sentiment, utilisée dans un sens négatif, et la simplicité, finalement, de l'idée ou du mot de sentimentalité. Et si on poursuit plus loin, dans le texte de Pierre Nora, qui est très touffu, il y a ce que je développe dans mon livre, ce que j'appellerais volontiers une sorte de mêlée lexicale. Parce que on rentre par la notion d'humanitaire, on finit par le terme vertu...
Vertuisme, dit-il.
Qui est transformé péjorativement par ce néologisme de vertuisme. Et entre les deux, il y a quantité de termes. Donc la question légitime, en tout cas pour un philosophe qui s'intéresse aux moyens de la pensée, le moyen de la pensée c'est le langage, la question légitime du philosophe c'est de se demander les liens qu'il y a entre tous ces termes, qui sont d'abord des termes qui véhiculent avec eux des sens avant d'être des concepts. Donc tout l'objet de ma réflexion a été en fait d'essayer de démêler ces liens, mais d'abord d'exposer la complexité, le caractère très très touffu que cache l'apparence de simplicité de l'expression.
C'est-à-dire que l'expression elle-même, bon sentiment, est facilement analysable. Il y a les sentiments d'un côté, resterait à les définir, mais ça à la limite c'est possible. Et le fait qu'il soit qualifié de bon, à l'opposé de mauvais sentiments. Bon, déjà, il y a un relativisme ambiant qui fait qu'il est difficile de savoir de quoi on parle quand on parle de bons sentiments. C'est pas la même chose que les sentiments bons. Mmh. Et puis, il y a ce que vous indiquez dans votre livre et qui correspond vraiment, effectivement, à votre démarche, la prise en compte de l'usage de cette expression. C'est-à-dire que l'expression elle-même, qui est du côté du bon, est employée de manière souvent péjorative et donc comme s'il y avait un renversement du bon au mauvais. Les bons sentiments employés entre guillemets, comme je suis en train de le faire, ça signifie en fait quelque chose de mauvais, ce dont on aimerait s'éloigner. En l'occurrence, Pierre Nora, dans son discours, dit les médias qui ont remplacé l'information par les bons sentiments. Il faut décrypter et voir dans bons sentiments quelque chose de naïf, de superficiel, qui dispense de penser en réalité.
Alors voilà, on a besoin d'une traduction. Ouais. Immédiatement, on a besoin de traduire. C'est-à-dire donc derrière cette évidence-là, on a besoin de... Et si on traduit, on se rend compte très vite qu'on s'éloigne, un, de la sentimentalité, quand il s'agit de dénoncer l'hypocrisie, l'injonction morale, parce qu'il faut encore prouver ces liens entre le sentiment, fut-il bon, et la moralité, c'est déjà un énorme chapitre. Donc la vraie porte d'entrée, enfin qui a constitué pour moi un sujet à explorer, c'était, donc je le répète, mais c'est important, c'est sous couvert d'évidence, en fait, les locuteurs, ceux qui utilisent l'expression, et ils sont très nombreux, ça a été l'une de mes motivations aussi, de voir que de l'homme de la rue à l'académicien, l'usage s'est vraiment répandu ces 15 dernières années. Et donc, cette évidence, en fait, cache un problème logique, avant tout, c'est-à-dire que le locuteur affirme une contradiction, mais sans le savoir. Ça, c'est déjà une motivation suffisante pour rentrer et examiner un sujet. Comment des sentiments qualifiés de bons peuvent-ils être mauvais ? Parce que on va un peu plus loin là, dans la définition nominale visant la définition de choses, enfin la définition s'il existe des bons sentiments. Ces bons sentiments sont critiqués non pas parce qu'ils sont sous un point de vue ou un autre mauvais, mais ils sont critiqués en tant que bons.
Mais alors, prenons des exemples pour être concret, parce que vous avez une démarche dans votre livre qui est, alors, à la fois, disons, on voit la spinoziste en vous, parce que je rappelle que vous êtes par ailleurs spécialiste de Spinoza. Votre livre est constitué de 99 propositions, et vous procédez de manière logique et qui n'est pas sans rappeler la forme géométrique, disons, de l'éthique de Spinoza. Mais aussi, on voit l'influence de Wittgenstein, hein, qui lui aussi procède par proposition, par fragment. Et donc, vous avez une analyse qui est logique, ordonnée, mais il faut comprendre aussi ce dont on parle et pas simplement s'interroger sur la manière que nous avons d'en parler. Donc, prenons des exemples. Quand vous parlez des bons sentiments, vous pensez à quoi ?
Alors, les exemples, ma démarche a été véritablement matérielle. C'est-à-dire, j'ai regardé les textes. Donc, la parole, là, on a entendu le discours et j'ai regardé les textes. Et les textes et la parole enregistrée montrent qu'il y a donc un usage dépréciatif des bons sentiments. Et ça, c'est un fait de langage contemporain. Donc le choix de la forme de ce livre, le traité, c'est un traité, donc ça se décline en paragraphes. En effet, les paragraphes développent, sont comme des scolies ou des démonstrations, développent une proposition qui précède le paragraphe ou le développement. Le traité, il sert à quoi ? Donc effectivement, c'est un hommage à la forme de la pensée classique. Le traité, il permet à la fois l'analyse et la prospection. Donc de faire un voyage en arrière, de s'interroger sur l'origine de ce basculement, s'il y en a eu un. C'est-à-dire quand, comment les bons sentiments en sont venus à signifier quelque chose de négatif dans la bouche des locuteurs. Et donc ça, c'était vraiment la première démarche, le premier trajet de ma réflexion, c'était de l'analyse. Donc, de mettre à plat les contradictions impliquées par l'usage, comme on peut le voir, c'est-à-dire de manière très succincte, on peut dire que les bons sentiments aujourd'hui, de manière générale, quand ils sont employés, ils désignent à la fois l'hypocrisie, mais l'effusion spontanée et sans calcul, la mièvrerie. Ils sont à la fois donc naturels et superficiels, c'est-à-dire qu'on peut vraiment décliner tout un tas de contradictions qu'implique l'usage et qui, au bout du compte, fait qu'on ne sait plus du tout de quoi on parle. Et donc, la conclusion qui s'imposait à moi... Pardon, je recule le moment de donner des exemples parce
que
précisément.
Oui, vous menagez le suspense parce que là, vous savez que tout le monde est en train de se dire, elle ne donne pas d'exemple.
Mais parce que précisément, il n'y a pas d'exemple. C'est-à-dire que attaquons le taureau par les cornes. Le texte de Nora le montre suffisamment, la complexité des rapports. Mais voilà, nommons un ou deux bons sentiments comme la pitié ou la compassion. La pitié et la compassion qui ont eux-mêmes subi des retournements de valeur. Au cours de l'histoire des idées, assez spectaculaire.
La pitié de Rousseau, qui en fait l'éloge à Nietzsche, par exemple, pour qui c'est beaucoup plus compliqué.
Exactement, compliqué, voire vraiment quelque chose à rejeter.
À rejeter.
Donc, quand on se dit, on va faire la liste des bons sentiments et on va. On est très vite arrêté, c'est-à-dire que la généalogie n'est pas possible. Il y a d'un côté une série de sentiments vers lesquels l'expression renvoie, mais tout en manquant ces sentiments singuliers. Donc, vous me jetez un peu dans la deuxième section de mon livre, que j'ai intitulé « Mêlée lexicale et erreur de catégorie », parce que les bons sentiments, c'est une expression générale. C'est une expression plutôt dont il faut prendre en compte le pluriel. Et il est très difficile. En fait, je me suis vraiment interrogée sur la possibilité de définir un tel ensemble s'il existait. Et en fait, je me suis d'abord interrogée sur les usages pour montrer que, en fait, cette expression signifiait tout et son contraire. Donc je n'ai pas besoin d'exemple, là, parce que finalement, ça nous échappe. Dès qu'on essaye...
On en prendra ensuite, de toute façon.
Oui, on en prendra ensuite. Mais dès qu'on essaye de dire ce que c'est, les bons sentiments, en prenant appui sur la manière qu'ont les gens d'en parler, ça échappe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, grâce à la forme du traité, j'ai reculé. Je suis allée voir, dans les textes passés, dans l'histoire des idées passées, comment était utilisée l'expression pour voir si cet usage contemporain qui prédomine aujourd'hui a toujours prédominé. Parce que l'usage contemporain, d'abord, nous par son évidence, nous dit que nous sommes prévenus. Je ne me laisse pas prendre au bon sentiment, au jeu du sentiment. Mais alors, tout de suite, une triple question. De quoi est-on prévenu? Par qui? Et depuis combien de temps?
Alors, prenons des exemples tout de suite pour illustrer ce que vous venez de dire. D'abord, Philippe Muret et puis Gustave Flaubert. Il en a fallu des efforts et du temps. Il en a fallu de la ténacité, de l'habileté, des bons sentiments et des causes philanthropiques pour incruster bien profond dans tous les esprits le clou du despotisme légalitaire. Mais maintenant, ça y est, c'est fait. Tout le monde en veut, spontanément. L'actualité quotidienne est devenue, pour une bonne part, le roman vrai des conquêtes de la loi et des enthousiasmes qu'elle suscite. De nouveaux chapitres de l'histoire de la servitude volontaire s'accumulent. L'orgie procédurière ne se connaît plus aucune borne. Et si je n'évoque pas ici les affaires de magistrats vengeurs, les scandales de fausses factures, la sombre révolte des juges en folie, c'est que tout le monde en parle partout. Je préfère aller chercher mes anecdotes en des coins moins visités. Il n'y a pas de petites illustrations. En Suède, tout récemment, un type saute au plafond d'indignation devant un film de Bergman qui passe à la télé. Il vient de voir un père donnant une gifle à son fils. Dans un film? Oui. Oui, dans un film, à la télé, pas en vrai. N'empêche que ce geste est immoral, profondément choquant d'abord, et puis surtout en infraction par rapport aux lois de son pays. Il va donc, de ce pas, porter plainte, poursuivre en justice. Qui n'approuverait cet homme sensible? Le cinéma, d'ailleurs, regorge d'actes de violence, de crimes, de viols, de vols, de trafic et de brutalité dont il est urgent de le purger. On s'attaquera ensuite à la littérature.
Quand ai-je dit que je n'avais pas d'amour pour toi?
Non, non.
Pas plus que je n'ai jamais dit le contraire. Laissons les mots auxquels on tient et dont on se paye en se croyant quitte du reste. Qu'importe de s'inquiéter perpétuellement de l'étiquette et de la phrase. Mets un peu la tête dans tes mains, ne pense pas à toi, mais à moi, tel que je suis, ayant 33 ans bientôt, usé par 15 à 18 ans de travail acharné, plus plein d'expérience que toutes les académies morales du monde quant à tout ce qui touche les passions, etc. Goudronné, enfin, à l'encontre des sentiments, pour y avoir beaucoup navigué. Et demande-toi s'il est possible qu'un tel être ait ce qui s'appelle de l'amour. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Je m'y perds. Si je ne t'aimais pas, pourquoi t'écrirais-je d'abord et pourquoi te verrais-je? Et pourquoi te... Qui donc m'y force? Quel est l'attrait qui me pousse et me ramène vers toi, ou plutôt qui m'y laisse? Ne sens-tu pas qu'il y a dans la vie quelque chose de plus élevé que le bonheur, que l'amour et que la religion, parce qu'il prend sa source dans un ordre plus impersonnel? Quelque chose qui chante à travers tout, soit qu'on se bouche les oreilles ou qu'on se délecte à l'entendre, à qui les contingents ne font rien, et qui est de la nature des anges, lesquels ne mangent pas. Je veux dire l'idée. C'est par là qu'on s'aime, quand on vit par là. Avec le culte de la Vierge, l'adoration des larmes est arrivée dans le monde. Voilà 18 siècles que l'humanité poursuit un idéal rococo. Mais l'homme s'insurge encore une fois. Et il quitte les genoux amoureux qui l'ont bercé dans sa tristesse. Une réaction terrible se fait dans la conscience moderne contre ce qu'on appelle l'amour. Cela a commencé par des rugissements d'ironie, Byron, etc. Et le siècle tout entier regarde à la loupe et dissèque sur sa table la petite fleur du sentiment qui sentait si bon, jadis.
Le glissement sémantique qu'a connu l'expression de « bon sentiment » Myriam Qureishi pour arriver au cynisme magnifique de Philippe Muret dans le texte que j'ai lu, un extrait de « L'envie du pénal » qui date de 1992, où il dit ceci, il en a fallu des efforts, du temps, de la ténacité, de l'habileté, des bons sentiments pour incruster bien profond le clou du despotisme légalitaire. Eh bien ce glissement sémantique, et donc le cynisme auquel il aboutit, est déjà en germe dans le texte de Flaubert, dont on vient d'entendre un extrait interprété par Georges Clès, où Flaubert dit bien à Louise Collet qu'il a mieux à faire que de croire en l'amour et qu'à ses sentiments, avec un S majuscule, où on mettrait aujourd'hui des guillemets, à l'égard desquels il prend le maximum de distance, dans cette lettre en tout cas, Myriam Qureishi.
Oui, de distance, il s'emmure. Il utilisait l'expression formidable de se goudronner.
Sans goudronner.
C'est goudronner ouais. Contre le sentiment. Alors, il est évident que à l'écoute de ce texte, on voit un auteur qui a mieux à faire. Quoi donc ? L'art. C'est la motivation principale et pour faire du grand art, il faut se goudronner contre les sentiments, mais peut-être, et c'est là où on rentre un peu plus dans la complexité du sujet, mais peut-être pas contre tous les sentiments, c'est-à-dire qu'il y a des sentiments communs, on connaît le Flaubert qui charge contre la bêtise et la sentimentalité, la mièvrerie commune, mais il y a peut-être justement, et Flaubert nous offre, l'œuvre de Flaubert et sa correspondance en particulier nous offre une formidable occasion de comprendre une distinction à l'œuvre tout à fait fondamentale au XIXe siècle, en tout cas, et qui sans doute est toujours très pertinente aujourd'hui, distinction entre sentiments sentimentaux et sentiments. Parce qu'il y a sensibilité et sensibilité, il y a celle, donc il y a quelque chose qui vibre dans le texte que Georges Clès a lu, donc qui vibre, il y a, on pourrait dire vraiment de l'émotion, il y a de la sensibilité, mais une sensibilité donc qui se veut supérieure, qui se veut être puisée à la source d'une inspiration ou déclencher une inspiration créatrice. Et une phrase me revient en tête de Flaubert qui dit vraiment les choses, parce qu'il utilise, donc on voit l'auteur se battre contre le sentiment avec un petit S, mais au nom du sentiment avec un grand S, peut-être. Et il a cette phrase merveilleuse donc toujours à Louise Collet, il lui donne une leçon d'art, enfin de comment faire de l'art. Il lui dit, il faut faire tressaillir les granites et s'aimer les arbres. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise de la sensibilité artistique qui est de toucher quelque chose de plus universel ou de plus fondamental ou de plus dur.
Comme si l'amour qu'il pouvait ressentir pour Louise Collet était trop faible ou inférieur au sentiment que la littérature et la création lui procurent.
Ou qui ne serait pas de même nature. C'est-à-dire qu'il y aurait un sentiment mou qui donc enfonce, ne marque pas. Et un sentiment ou une sentimentalité ou une sensibilité plutôt dure. Et Flaubert utilise souvent le mot dur ou le champ sémantique de la dureté. Et c'est-à-dire le marbre, c'est-à-dire laisser quelque chose.
Ce qui reste.
Et comme si la sentimentalité commune, vulgaire, dans le sens la plus répandue, celle dans la société, était représentait un danger pour la création artistique parce qu'elle vient grignoter, éroder en fait cette dureté, cet élan tendu vers la création qui demande effectivement un effort et des sacrifices et une vision autre peut-être, en tout cas pour Flaubert et pour les défenseurs d'un grand art, autre qu'une sensibilité commune.
C'est peut-être ce qu'il y a de commun dans tous les exemples de bons sentiments que l'on peut prendre, et je renvoie aussi même au discours de Pierre Nora qui a ouvert cette émission lorsqu'il disait que dans les médias, l'information avait été supplantée par les bons sentiments. Les bons sentiments, c'est ce qui va dispenser de réfléchir et de creuser. C'est ce qui ne va pas produire quelque chose de plus qu'un simple état d'esprit dont on se contente. C'est pour ça que c'est un synonyme de mièvrerie, de superficialité. C'est se féliciter de ressentir quelque chose que l'on qualifie de bon, mais qui ne conduit pas à autre chose.
Alors voilà le procès attenté contre les bons sentiments. Mais il faudrait encore prouver que avoir des bons sentiments signifie exclure tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la lucidité, la ténacité.
Plutôt la créativité, créativité dans la lignée du texte de Flaubert.
Dans la mesure où on a quand même dans nos esprits beaucoup de place pour beaucoup de choses, c'est une représentation disjonctive, c'est-à-dire d'un côté la sensibilité commune et de l'autre la sensibilité supérieure, qui renvoie à un certain modèle du créateur qui peut être critiqué et qui repose sur beaucoup de présupposés. Et d'ailleurs, Flaubert est un guide sûr, à la fois pour l'usage, la propriété de l'usage, c'est-à-dire un usage propre qui respecte le pacte du langage, c'est-à-dire de faire un sens suffisamment, ou de se reposer, ou de communiquer un sens suffisamment commun pour que tout le monde s'entende. Flaubert critique le sentiment le long de nombreuses pages, mais bon sentiment n'apparaît dans toute sa correspondance que à deux occasions. L'une qui n'est pas directement critique, mais qui dit il faudrait pouvoir un jour s'en passer. L'humanité, enfin, il appelle de ses voeux une humanité qui pourra un jour se passer de bon sentiment, mais ça veut dire qu'on peut peut-être pas s'en passer. Et la deuxième occurrence, c'est une occurrence beaucoup plus qui signale la difficulté dans une situation difficile dans laquelle il était. Il était aux prises de critiques féroces à l'apparition de son Saint-Antoine, et il dit très clairement ce que tout le monde, je pense, ferait, et c'est là le problème, la contradiction de l'usage contemporain, qu'il vaut quand même mieux susciter des bons sentiments que des mauvais. C'est-à-dire qu'il y a quand même au fond de l'usage, et c'est tout à fait recouvert par l'usage contemporain, il y a quand même au fond de l'usage quelque chose de bon au bon sentiment. Donc à force de les traiter de manière négative sans même savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire en parlant comme ça, ça pose un véritable problème, des problèmes de tous ordres, des problèmes donc logique, comme j'ai dit au début, des problèmes éthiques et des problèmes politiques, parce que ça implique un certain rapport de défiance, en fait, vis-à-vis de la sensibilité humaine en général, et plus précisément, ça implique une certaine défiance vis-à-vis de la sensibilité commune, c'est-à-dire du plus grand nombre. Donc il y a ce que j'ai essayé de montrer, mais en déroulant tous ces fils et en suivant donc le fil de du processus de péjoration de l'expression, c'est au fond le moraliste, l'antimoraliste, l'esthéticien, celui qui défend en gros une morale du beau et seulement du beau, du grand art, ont tous en commun de rejeter les bons sentiments pour ce qu'ils sont en étroit rapport avec le plus grand nombre.
Sans vouloir offenser les marchands de confiture, il faut bien se rendre à l'évidence, les sirupeux commencent à nous les engluer. Depuis des lustres déjà, la mièvrerie d'un humanisme sanglotant enrobait l'homo sapiens occidental. Infiltrant en son cœur, débordant de remords colonialistes, le flot sucré de la plus vulgaire sensiblerie. Mais bon, on se contentait de patauger dans le filandreux sans s'y noyer. 3 sous pour l'abbé Pierre, une marraine pour le Vietnam, une cuillerée pour Mamadou, et on pouvait retourner finir son foie gras, la conscience débarbouillée et l'âme dans les pantoufles. Mais voici qu'une horde électronique de rockers anglophones surgavés d'ice creams se prend soudain d'émotion au récit pitoyable de la misère éthiopienne, dont les navrantes images nous prouvent en tout cas qu'on peut garder la ligne loin de Contrexéville. Gravés sur le vinyle, les miaulements effrayants et les brames emmêlés de ces chanteurs transis déferlent un jour sur les ondes, et c'est le monde entier qui glougloute dans la mélasse, la larme en crue et la honte sous le bras. Les charitables épisodiques, entre deux bafferées de confit d'oie, vont pouvoir épancher leurs élans diabétiques. Le plus célèbre des employés de Paul Lederman ouvre les restaurants du cœur. Des tripiers doux, des épiciers émus, de tendres charcutiers, le cœur bouffi de charité chrétienne et de cholestérol, montrent leur bonté à tous les passants sur les trois chaînes. Quand on lèvera des impôts pour les mourants du monde et qu'on fera la quête pour préparer les guerres, j'irai chanter avec Renaud. En attendant, oui, mon pote, j'ai 100 balles et je les garde.
Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance et les restos du cœur. Mais oui, à l'occasion d'une émission consacrée au traité des bons sentiments de la philosophe Myriam Korichi, un livre qui paraît ce mois-ci chez Albin Michel.
Un coin dans les tables. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs.
C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Myriam Korichi, vous qui accordez tant d'importance à la façon dont les bons sentiments sont reçus, le faisceau de sens dans lequel ils s'inscrivent, dans votre analyse, hein, au sein de votre ouvrage, je pense qu'un bon test pour savoir comment les bons sentiments sont reçus aujourd'hui serait d'observer, là, avec une espèce de lunette invisible, le visage de l'auditeur en train d'écouter cette chanson. Et je pense que la moitié d'entre eux se disent « Oh non, quelle horreur !» Et l'autre se dit « Ah, enfin !» Non pas pour la qualité de la chanson, ce qui reste secondaire. Je pense que c'est par nostalgie qu'on peut l'aimer, peut-être au-delà des qualités musicales, et surtout le fait qu'elle renvoie à une autre France que celle d'aujourd'hui. Mais parce que finalement, voilà la division qu'incarnent ces bons sentiments. Peut-on l'assigner à celle, à la division entre le premier degré et le second degré? Parce que finalement, c'est ça qui est en jeu.
Oui, le moment où s'est retourné donc le sens des bons sentiments, ou plutôt leur valeur, parce que le sens, c'est pas tant le sens des bons sentiments que le rapport affectif aux bons sentiments, c'est-à-dire de rejet ou d'appréciation. C'est vraiment ce basculement a eu lieu au XIXe siècle, au moment justement d'une espèce de retour de mise à distance du romantisme par les romantiques eux-mêmes, seconde génération. Et le moyen de cette mise en distance qui signalait une très grande déception dans les grandes attentes de la Révolution française et de ses suites, le moyen de cette mise à distance, c'est l'ironie. Donc effectivement, il y a un départ entre ce qu'on pourrait appeler le premier degré et puis un second degré. Et c'est ce que, voilà, c'est « je ne me laisse pas prendre à ces doux mots, moi ». C'est-à-dire, je suis prévenu. Je suis au-dessus de ça et je suis prévenu. Alors, il y a effectivement, il y a un surplomb. Il peut y avoir un surplomb. Mais il y a surtout quelque chose de, je ne veux pas me laisser prendre par le regard de l'autre ou le discours de l'autre comme étant sensible à cette sentimentalité-là.
C'est ça, il y a quand même ça exprime une méfiance à l'égard de la partie, la dimension sentimentale qui nous constitue, à part égale d'ailleurs de la partie rationnelle. C'est une forme de snobisme de la raison, non, que de mépriser les bons sentiments.
Oui, il y a effectivement la philosophie classique, en tout cas, a sa part de responsabilité. C'est-à-dire que la philosophie, on pourrait dire Platon, mais ça s'est bien construit depuis le XVIIe siècle, le rationalisme classique tend à vouloir mettre en tutelle la sensibilité, donc qu'elle soit passionnelle, sentimentale. Alors, il y a eu un moment au XVIIIe siècle où le sentiment s'est échappé, s'est autonomisé. Et puis, en fait, on a eu la réaction du XIXe siècle où là, les sentiments sont rentrés dans leur rang, mais quel rang? Celui de la morale. Donc, au moment où les bons sentiments se moralisent, c'est-à-dire rentrent au service de la morale et de la marche de la civilisation occidentale, de la République française aussi, la morale, sur le terrain philosophique, commence à être mise en cause. Donc, il y a un double processus qui explique la dépréciation des bons sentiments, c'est-à-dire les bons sentiments partis d'un premier sens classique qui est absolument évident, là pour le coup, pour les locuteurs du XVIIe siècle, que ce soit Descartes, Madame de Sévigné, on trouve sous leur plume une référence sans aucun... Il n'y a aucune ombre au tableau, c'est-à-dire le système de référence est clair. La lettre préface au principe de Descartes lance un appel au bon sentiment, c'est-à-dire Descartes demande à ses lecteurs de prendre en bonne part, c'est ça que ça veut dire, avec bienveillance, le début de son amorce et de sa révolution philosophique. Et évidemment, le tableau a complètement changé entre-temps. Donc, ce que j'ai un peu découvert ou essayé de comprendre, c'était qu'on passait en fait d'un présupposé cognitif au XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est un milieu dans lequel les gens baignent pour pouvoir discuter entre eux, et non pas seulement disputer. On passe donc de progressivement les sentiments se moralisent, enfin la notion de sentiment se moralise, mais c'est encore positif que de défendre la morale au XVIIIe siècle. Mais le présupposé ou le stéréotype moral qui vient affecter le sens des bons sentiments qui n'est pas nécessairement là avant, en fait, est l'une des raisons pour lesquelles les bons sentiments vont aussi être dépréciés. Les bons sentiments sont victimes d'un double processus. Ils perdent leur naturalité parce qu'ils sont au service d'une moralisation de la société en marche. Et le cours de la morale chute. Donc, l'ironie va se déchaîner.
Et a pour conséquence de réduire le bon sentiment ou le sentiment jugé comme tel, à son expression purement rhétorique. Et ça, vous le montrez très bien dans votre ouvrage, à travers des analyses notamment du travail d'Andy Warhol, mais aussi vous citez Humpty Dumpty ou encore Hamlet, hein, voir à quel point finalement l'usage même des bons sentiments réduit à une image fait que ça ne veut plus rien dire. L'expression de bons sentiments est simplement une forme d'outil dont le sens dépend de son utilisateur et que finalement on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ça devient une arme rhétorique.
Alors ça devient une arme rhétorique, donc de rejet, de dépréciation, etc. Mais le rapport aux images, justement, a été un fil tout à fait précieux pour moi, pour essayer de sauver le sens des bons
c'est
sentiments.
C'est ça, parce que là, il nous reste quelques minutes, mais parce quand même, essayons d'aller jusqu'au bout de votre
en fait,
pensée.
Si d'un côté, ce que j'ai très simplement, j'ai analysé les raisons de la dépréciation des bons sentiments que j'ai trouvé dans la composition de discours. Les discours déprécient les bons sentiments, que ce soit la parole publique, dans la parole publique ou dans les compositions de discours beaucoup plus minutieusement travaillées des universitaires même et des académiciens. Mais les éléments qui pourvoient à l'expression en sens, c'est-à-dire l'expression elle-même qui continue son trajet, qui continue d'être exploité, utilisé. Il y a d'autres éléments qui la laissent en signification, et notamment les images. C'est-à-dire s'il y a d'un côté les discours qui déprécient les bons sentiments, et il y a d'un autre côté, et là ce rapport n'est pas entre l'expression, les mots, bons sentiments, et les images, le cœur sur la main, les rassemblements populaires, les restos du cœur, et j'en passe, c'est-à-dire des clichés, ce rapport-là n'est pas dépréciatif. Il y a une véritable connexion. Il ne s'agit pas de valoriser, il s'agit justement pas du tout de prendre une position morale, mais d'observer, en fait, qu'est-ce qui donne sens aux bons sentiments en dehors des discours. Et les discours, eux, déprécient. Les images, en revanche, même les clichés, donc j'ai pris le parti de suivre la piste de la superficialité des bons sentiments, et de suivre la piste des images, et de montrer que c'est par ce biais-là, en fait, qu'il y a une affirmation de sens positive.
Entre émotion, recueillement et solidarité, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées unies face au drame et à la douleur en hommage aux blessés et aux morts des attentats de la nuit passée.
Voilà, c'est pour être présent et montrer qu'on ne va pas se laisser faire et réagir le mieux possible.
Bah, c'est important de se recueillir dans une situation pareille.
Et surtout en hommage pour toutes les victimes qu'il y a eu et... pour ce qui s'est passé, quoi. Enfin, c'était... Je pense que ça nous tenait vraiment à cœur de montrer qu'on était là aussi, même si on n'y était pas, et que ça aurait pu arriver à n'importe qui, à nos familles.
Ce qui est difficile dans ce genre de moment, c'est d'essayer de rester lucide. Il faut rester unis. C'est pour ça qu'on a tous tenu à se réunir ici pour être ensemble.
L'appréciation des bons sentiments dépend du contexte dans lequel ceux-ci s'inscrivent, ici au lendemain des attentats qui ont frappé Paris l'an dernier, en 2015, dans ce micro-trottoir diffusé par France 3 Bretagne, on y entend le recours à ce qu'on appelle les bons sentiments, ici sans cynisme aucun, ce qui semble montrer que parfois dans les discours aussi, les bons sentiments sont valorisés, que c'est pas seulement le propre des images que de valoriser les bons sentiments.
Mais des discours qui sont accrochés à des images ou la manière dont les gens se rapportent ou les individus se rapportent aux autres individus. C'est-à-dire ça semble. Donc les mots que nous avons pas entendu là ont un rapport très très fort avec les images, le fait d'être réunis, de savoir, de voir les autres, et donc de médiatiser sa sensibilité avec son rapport à autrui. Il y a à la fois une spontanéité de rapport qui est l'émotion, mais aussi le fait de se rapporter à l'autre homme, ou aux autres hommes, ou à la multitude, et de s'y agréger. Et ça, ce processus d'agrégation, enfin de s'identifier à l'autre, ne se fait que par un processus d'imagination. C'est là où ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le sens vient aux mots par des images ou un schématisme imaginatif. Donc il ne faut pas trop dévaloriser l'image du cœur sur la main ou des rassemblements de la multitude, parce que ce qui est remarquable, c'est qu'on est passé d'une conception, d'une vision de la foule comme dangereuse ou de la masse dangereuse, à une foule pacifiste, et c'est par le truchement des images, c'est-à-dire des images tous azimuts. C'est la médiation médiatique qui permet donc en fait peut-être une autre carrière sémantique des bons sentiments.
Merci beaucoup Myriam Korich d'être venue nous en parler aujourd'hui en tout cas. Merci. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Traité des bons sentiments » disponible chez Albin Michel.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, Géraldine Mosna-Savoie qui vous propose son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
À qui souhaitez-vous donner un conseil aujourd'hui ?
Eh bien, après Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, et en vertu d'une certaine alternance, c'est un conseil aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon, qui ne prône pas seulement le slogan d'une France insoumise, mais aussi celui, peut-être plein de bons sentiments, de l'intérêt général humain.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
À la différence des 40 et quelques candidats à l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon n'a pas perdu de temps pour se déclarer. C'est chose faite depuis février dernier. Et à la différence d'une vingtaine de ceux-là, il ne perd pas non plus de temps avec des primaires. Le candidat de son parti, le Front de Gauche, c'est lui et lui seul. Mais seul Jean-Luc Mélenchon ne l'est pas non plus complètement, puisque le week-end dernier, pour le rendez-vous annuel de la fête de l'humanité, il a justement visé l'humanité.
Ma candidature est d'abord celle d'un programme dont la cohérence doit être gardée, protégée, nourrie avec soin. Il faut qu'il y ait un fil conducteur qui s'applique dans tous les compartiments de la proposition. Ce fil conducteur, c'est l'intérêt général humain qui est mis en cause par la menace qui pèse sur la civilisation humaine, la destruction du seul écosystème compatible avec celle-ci. Le fil conducteur qui organise tout le reste, c'est cette vision des biens communs, de ce que nous avons en commun, notre humanité partagée.
L'intérêt général humain, tel est donc le fil conducteur de Jean-Luc Mélenchon. Et si l'intérêt général peut d'emblée évoquer Jean-Jacques Rousseau et son contrat social, inscrivant ainsi Jean-Luc Mélenchon dans une filiation républicaine, le terme d'humain est lui beaucoup plus énigmatique. Car on ne doit qu'à lui cette expression et on ne la trouve nulle part chez Rousseau. Alors que peut donc bien ajouter ce terme d'humain à l'intérêt général ? Comment la volonté générale qui le vise, ce fruit de l'association de tous les hommes en un corps moral et collectif, pourrait-elle ne pas ou ne plus être humaine ? Qu'est-ce qui fait que l'intérêt général semble manquer l'humain pour avoir à lui adjoindre ce terme ? Eh bien, il lui manque au moins deux choses, deux sens que l'humanité exprime et que n'a pas manqué pour sa part Jean-Luc Mélenchon avec son mot d'ordre. L'humanité, en effet, c'est ce que partagent les hommes par rapport à d'autres espèces. Ce sont leurs traits et leurs biens naturels communs. Et à cet égard, il est toujours bon de le rappeler et de faire justement preuve d'humanité face aux inégalités.
Je voudrais, millionnaire, milliardaire, vous rappeler quelque chose que vous avez perdu de vue. Vous êtes des êtres humains.
Mais l'humanité, c'est aussi et d'abord l'ensemble des caractères communs à tous les hommes, et là, non pas en rupture, mais en continuité avec les autres espèces, telles la vie et l'animalité. Ce que Jean-Luc Mélenchon a mentionné d'emblée et qu'il a approfondi ensuite.
Il n'y a pas d'avenir en commun pour les êtres humains sans tous les éléments qui constituent la biosphère. Il n'y a pas d'avenir en commun pour les êtres humains sans toutes les espèces animales et végétales qui ont permis l'émergence de la conscience. L'avenir en commun est un projet global qui concerne tous les aspects de la biosphère et de sa conservation.
Animal, végétal, écosystème, projet global, Jean-Luc Mélenchon, avec son intérêt général humain, est beaucoup plus vert qu'on ne le pense, mais serait-il encore plus rousseauiste que Rousseau ? Alors on l'a dit, pas d'intérêt général humain chez le philosophe du contrat social, mais il y a en revanche chez lui une pensée et même un amour de la nature. Dans ses rêveries du promeneur solitaire, 7e promenade précisément, Rousseau critique ainsi ceux qui, à leur propre fin, physique ou intellectuelle, puisent dans l'environnement comme dans une nature morte. Ceux qui, je cite, la déchirent, la désosse fouille à loisir dans ses entrailles palpitantes. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, va beaucoup plus loin encore que Rousseau. Il ne critique pas seulement ceux qui fouillent les entrailles palpitantes de la terre, il ne célèbre pas seulement la nature d'un côté et le contrat social de l'autre. Non, il fait les deux ensemble.
Allez, quelques vers. Non, parce que là, c'est trop dur. Oh, prenez garde à ceux qui n'ont rien. Chante un petit oiseau malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique. Au-dessus des royaumes et des républiques.
Mieux donc que d'aimer la nature, Jean-Luc Mélenchon, petit oiseau malin, se fond en elle. Et mieux encore, il repense l'humanité en s'inspirant d'elle et non le contraire.
Alors quel est votre conseil du jour au poète Mélenchon ?
Alors mon conseil, eh bien justement, c'est qu'il continue comme ça, mais qu'il ne s'envole pas trop loin non plus, car à viser trop haut, avec un projet si ambitieux et un mot si large que l'humain, le risque est de ne pouvoir en faire que moins.
Merci Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine consacrée à la police. Mais oui, la philosophie de la police, la haine de la police, les romans policiers. Et la police est-elle tyrannique ? De Blaise Pascal à Krakauer, vous verrez, la police est extrêmement féconde, elle aussi. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que toutes celles de cette semaine, ainsi que les 2 minutes papillon de Géraldine et le petit précis philosophique à l'usage des candidats en campagne que vous venez d'entendre aujourd'hui, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez tout réécouter en ligne, mais aussi télécharger et podcaster afin d'écouter ces émissions, chroniques, rubriques à l'heure que vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur Facebook et Twitter où l'émission est mise en ligne quotidiennement sur le compte des Nouveaux Chemins. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, c'est l'heure de retrouver comme tous les jours votre feuilleton quotidien, la vie moderne.